on commence avec le Japon qui vient de réussir une greffe de cornée artificielle créée à partir de cellules souches reprogrammées.
L'opération a eu lieu en juillet et depuis la greffe, la patiente de 40 ans n'a pas eu de rejet et surtout sa vision s'est améliorée. Elle souffrait d'une carence en cellules souches épithéliales de la cornée, une maladie qui conduit à la cécité. Pour cette opération, les chercheurs ont fabriqué en laboratoire un feuillet de cornée à partir de cellules souches reprogrammées pour devenir cornéennes. Ils ont ensuite transplanté de 3 à 4 millions de ces cellules souches. C'est une prouesse médicale, hein, cela laisse entrevoir la possibilité de fabriquer des cornées à la demande. En France, il y a à peu près 4000 patients qui bénéficient de ces greffes, mais à partir de donneurs. Déjà, il n'y a pas assez de greffons et ensuite, les risques de rejet sont élevés. Christelle Monville est enseignante-chercheure à l'ISTEM. À ses yeux, les cellules souches IPS sont la prunelle de la médecine régénérative.
Les cellules souches IPS sont des cellules dont on dit qu'elles sont pluripotentes. Alors pluripotentes, ça veut dire plusieurs potentiels. Et elles sont particulièrement intéressantes parce que ce sont des cellules qui peuvent se multiplier de façon normale. Donc on peut effectivement obtenir des millions de cellules. Ces cellules souches pluripotentes, on peut les obtenir en prélevant en fait des cellules de la peau, en les ce qu'on appelle nous reprogrammant grâce à un cocktail de gènes, c'est-à-dire qu'on les fait redevenir comme des cellules embryonnaires d'une certaine façon, donc on les fait revenir dans le temps à des cellules qui peuvent donner tous les tissus de l'organisme. Ce sont quand même des cellules qui sont beaucoup moins immunogènes que lorsque les cellules viennent d'un donneur. Ces cellules étant moins immunogènes, finalement, le risque d'avoir un rejet est beaucoup moins important. Donc de pouvoir fabriquer en laboratoire des cornées à la demande d'une certaine façon, ça ouvre plein de possibilités.
En bref, dans Physical Review Letters, des physiciens chinois viennent de proposer un nouveau modèle théorique de supraconducteur.
Avec un composé riche en hydrogène, il pourrait conduire l'électricité sans résistance jusqu'à 200 degrés Celsius. Pour fonctionner, les supraconducteurs connus doivent être refroidis avec une température inférieure à la température ambiante. Si ce nouveau calcul est confirmé expérimentalement, cela révolutionnerait la transmission de l'électricité et cela permettrait surtout de grandes économies d'énergie.
Selon une étude parue dans la Royal Society Open Science, les baleines apprennent le chant de leurs consœurs qu'elles croisent sur la route.
On savait que les baleines transmettaient leur chant au sein d'une même famille de génération en génération, mais pas entre différentes populations. Cette équipe internationale a enregistré les chants de baleines à bosse dans plusieurs régions du monde, dont celui-ci. Des enregistrements qui viennent de plusieurs régions, donc, mais surtout près des îles de Kermadec, dans le Pacifique Sud, le carrefour migratoire des cétacés. Les chercheurs ont décomposé et séquencé chacune de ces chansons. Et ils ont trouvé des variations de leur chant selon les itinéraires des différents groupes. En écoutant le chant des baleines, on peut donc retracer leur route migratoire.
Deuxième sujet de ce journal des sciences, selon une étude parue mercredi dans Science, quelle que soit la langue, la communication humaine transmet des informations au même débit.
On savait déjà que certaines langues sont parlées plus rapidement que d'autres. Mais ce que montre cette étude, c'est que quelle que soit la vitesse d'élocution, le taux d'information transmis est sensiblement le même pour toutes les langues. Il y a environ 7000 langues parlées dans le monde et toutes utilisent des syllabes pour produire du sens. Sur 17 langues, cette équipe française a isolé des briques de syllabes. Ils ont mesuré la vitesse d'élocution, puis la densité moyenne d'informations. Et résultat, plus le débit de parole est important, plus la densité d'informations est faible et inversement. Ils ont également calculé qu'en moyenne, les langues transmettent 39 bits d'informations par seconde. François Pellegrino est directeur de recherche au CNRS au laboratoire Dynamisme du Langage de l'Université de Lyon. Il a dirigé cette étude.
Quand on regarde au final le débit d'informations des différentes langues, ils sont pas très différents d'une langue à l'autre. Et ça donne l'impression qu'il y a une sorte d'attracteur, c'est-à-dire que toutes les langues, elles sont contraintes, et si la contrainte vient probablement en partie du cerveau, c'est-à-dire qu'il y a des contraintes sociales, mais aussi des contraintes cognitives, elles sont contraintes vers un débit d'informations qui représente un point de fonctionnement, peut-être pas optimal, mais en tout cas un point de fonctionnement efficace pour transmettre de l'information. Ce qu'on montre, en fait, c'est que c'est effectivement ce qu'on pourrait appeler une tendance universelle, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas très strict et qui n'est pas forcément vérifié par toutes les langues, mais où les langues, globalement, ont tendance à respecter cet effet. On sait que les langues évoluent en permanence, ce que suggère notre étude, et c'est des hypothèses qui seraient intéressantes à évaluer par la suite, c'est que si une langue a des changements qui vont par exemple diminuer assez fortement le nombre d'informations qui est encodé par syllabe, on s'attend à ce que les locuteurs accélèrent la manière dont ils parlent cette langue pour maintenir un débit d'information constant. Et vice-versa, si la quantité d'informations par syllabe augmente, on s'attend à ce que les locuteurs ralentissent.
Et dans le Journal des sciences, qui est en quotidienne maintenant, tout au long de la semaine, nous avons parlé d'une double détection d'ondes gravitationnelles, nous avons vu les risques de l'ibuprofène pendant la grossesse, un rapport sur les perturbateurs endocriniens en France et la proximité de l'homme de Denisova avec Homo sapiens, mais aussi Natacha en ultra bref.
Cette semaine, en seulement 2 nuits d'observation, les astronautes américains ont vu un astéroïde changer de couleur. Ses spectres sont passés du rougeâtre au bleu. Cela serait peut-être les effets de sa désintégration. Désormais, les logiciels de reconnaissance faciale fonctionnent aussi pour les chimpanzés. Plus précis et plus rapide que n'importe quel chercheur expérimenté, cela permettra d'étudier plus efficacement les animaux sauvages. Et cette semaine enfin, les nouvelles normes USB 4 ont été finalisées, présentées, avec des capacités de transfert de données pouvant aller jusqu'à 40 gigabits par seconde. Les premiers appareils ne sortiront pas avant 2020.
Et voilà, petite nouveauté également de cette 4e saison, un vendredi sur deux, dans ces vendredis consacrés à la science-fiction, eh bien nous allons faire un petit journal de la science-fiction, Natacha.
On écoute un extrait de la série dystopique La Servante Écarlate, adaptée du livre de Margaret Atwood.
Heresy. That's what you get punished for. Not for being part of the resistance. Because officially... there is no resistance. Not for helping people escape. Because officially, there's no such thing as escape.
You working hard?
Voilà, Offred réussira-t-elle à s'échapper cette saison, la 3e saison de La Servante Écarlate diffusée sur la chaîne Hulu. On en reparlera d'ailleurs tout à l'heure avec Virginie Tournet, dont c'est l'une des inspirations. Mais pourquoi nous parlez-vous aujourd'hui de La Servante Écarlate, Natacha?
La suite de ce roman s'apprête à sortir en France, Les Testaments, le 10 octobre aux éditions Robert Laffont. L'histoire se déroule 15 ans plus tard. Et pour ce nouvel opus, l'écrivaine britannique Margaret Atwood vient d'être nommée parmi les 6 finalistes 2019 du Booker Prize. Elle l'avait déjà reçue en 2000 pour son roman historique Le Tueur Aveugle. La prestigieuse récompense sera décernée le 14 octobre. Une adaptation en série télé du Testament est déjà prévue.
Autre série télé annoncée par Netflix cette fois, une production belge originale qui s'appelle Into the Night.
Ouais, le pitch de cette série SF, le soleil est subitement devenu mortel pour tout être vivant. On suit donc un groupe de personnes à bord d'un avion qui tente de survivre et d'échapper aux rayons solaires. Cette série en 6 épisodes est une adaptation de The Old Axel Tot. La sortie de Into the Night est prévue pour 2020.
Et on connaît maintenant la date de diffusion d'une série très attendue sur HBO, l'adaptation donc en série de la bande dessinée de Watchmen.
L'adaptation du roman graphique d'Alan Moore et Dave Gibson est en effet très attendue et sera donc diffusée à partir du 20 octobre sur HBO et en France sur OCS. Des super anti-héros en 9 épisodes avec au casting Jeremy Irons. La série est signée Damon Lindelof, le producteur et le scénariste de 2 autres séries à succès, Lost and the Leftover.
Le 21 septembre, plusieurs capitales du monde vont projeter dans le ciel le Bat-signal.
Le 21 septembre, c'est un jour officiel, celui du Batman Day. L'initiative nous vient de DC Planet, qui fête les 80 ans du super-héros chauve-souris. Le 21, donc, la ville de Paris prendra des allures de Gotham City.
Et puis, pour ne pas déroger à une tradition à laquelle vous tenez, vous, auditeurs fidèles de la méthode scientifique, on termine ce journal des sciences par la rubrique de sciences improbables. Et aujourd'hui, Natacha, un adolescent anglais est devenu aveugle parce qu'il se nourrissait exclusivement de chips.
Oui, de chips et de frites. C'est un cas extrême qui a été étudié cette semaine. Dès l'âge de 11 ans, l'adolescent avait cessé de manger des fruits et des légumes. À 14 ans, il se plaignait d'une immense fatigue. Il ne présentait pourtant aucun signe de malnutrition. En réalité, il souffrait d'une neuropathie optique toxique et carentielle. Les carences alimentaires ou l'absorption de matières toxiques peuvent provoquer cette pathologie bien connue.
Et voilà un excellent argument pour faire manger des brocolis à votre progéniture. Merci beaucoup Natacha Trillon, on vous retrouve lundi pour le prochain Journal des sciences en quotidienne.